VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon, au Soudan du Sud. De violents combats accompagnés de fortes explosions ont opposé ce matin dans la capitale Juba les forces loyales au président Salva Kiir, aux ex-rebelles du vice-président Riek Machar. L'ambassade des États-Unis à Juba a pour sa part fait état de combats sérieux entre le gouvernement et les forces d'opposition à Juba pour la deuxième journée consécutive à Nalbesson.
Ces tirs d'armes automatiques, sans commune mesure avec les combats de la veille, provenaient notamment de Djebel, un des quartiers où les combats de dimanche ont été les plus intenses, et du quartier de Mounouki. Les combats de dimanche, au lendemain du 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud, font craindre une reprise des combats à grande échelle dans ce pays déchiré depuis décembre 2013 par un conflit dévastateur qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de 3 millions de déplacés. Dans la soirée, les États-Unis ont réclamé la fin immédiate des combats et annoncé le retrait de Juba de tout le personnel de leur ambassade jugé non essentiel. Dimanche après-midi, l'aéroport de Juba était fermé. Ce matin, les vols au départ de Nairobi vers Juba ont été annulés, d'après l'AFP. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé hier aux pays de la région et à l'Union africaine de discuter fermement avec les dirigeants sud-soudanais pour traiter cette crise. Les membres du Conseil envisagent de renforcer la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, et demandent aux pays de la région de se préparer à fournir des troupes supplémentaires au cas où le Conseil le déciderait.
Atmosphère de campagne ce week-end dans la capitale gabonaise. Le président sortant Ali Bongo s'est officiellement porté candidat à la présidentielle d'août prochain après avoir déposé sa candidature devant la commission électorale. Compte rendu, Jean-Vrovis Dabani.
Sur un podium devant une foule acquise à sa cause, Ali Bongo brandit le récépissé de la Commission électorale nationale autonome et permanente.
Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que je suis un étranger? Est-ce que je viens d'ailleurs? Je viens d'où? Je viens d'où? Je viens d'où?
Mais alors que le président sortant s'exprime, quelques 150 opposants manifestaient en contrebas du rond-point de la démocratie sous haute surveillance policière. Il s'était donné rendez-vous pour empêcher Ali Bongo d'aller déposer sa candidature devant le siège de la commission électorale située à une dizaine de mètres de là. Comme leur leader, Jean-Steve Okimbi est l'un des opposants qui contestent le principe même de la candidature du président sortant, dont ils disent qu'il est un enfant nigérien adopté par Omar Bongo à la fin des années 60.
Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance qui soit cohérent, qui soit valable. Nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la deuxième fois la souveraineté de l'État gabonais.
Mais alors que la tension monte, les manifestants commencent à jeter des pierres sur les forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes. Deux policiers sont légèrement blessés, deux véhicules incendiés, une vingtaine de manifestants sont interpellés selon la police. À deux jours de la date butoir de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 27 août, Jean Ping, Guizou Bandama, deux des trois poids lourds de l'opposition ont déjà déposé leur candidature. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
L'opposition tchadienne a appelé dimanche la communauté internationale à reconnaître la nature dictatoriale du régime du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990, qualifiant de passage en force sa réélection en avril. Le front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité, force, dénonce dans un communiqué une situation sociale explosive et réclame une nouvelle élection libre, transparente et crédible sous les auspices de la communauté internationale. Mahamat Ba Bichi est le coordonnateur national de la coalition Force.
Nous appelons tout le pays à condamner ce coup d'État électoral, ce passage en force qui est soldé par la mort d'ailleurs de nos concitoyens, des militaires ont été torturés, tués parce qu'ils ont voté pour l'opposition. C'est quelque chose qui n'a jamais vu ailleurs dans aucun des pays où il y a eu des élections.
Alors de quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour amener le changement au Tchad?
D'abord, c'est notre peuple, la détermination du peuple tchadien, la détermination de la jeunesse patriotique tchadienne. Les Tchadiens aujourd'hui sont à bout. Ils veulent le changement et ils veulent que ce changement puisse passer d'abord par l'alternance et par la voie pacifique. L'État n'a connu que la violence comme mode de résolution des problèmes. Et aujourd'hui, notre peuple a une certaine maturité politique et ils sont capables de prendre leur destin amené par la voie pacifique.
Mahamat Barbechi, joint par Timothée Donagmaï. La République centrafricaine est toujours en danger, avec des régions entières contrôlées par des groupes armés, a averti le président Faustin Archange Touadéra en faisant ce week-end le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir. Dans un discours retransmis par les médias, le président Touadéra a demandé la levée totale de l'embargo sur la commercialisation des diamants qui, a-t-il dit, a privé l'État d'énormes ressources et encouragé le trafic illicite. Écoutons la réaction de Noël Ramadan, le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique.
La situation s'améliore un peu, mais l'attente de toute la population, y compris les travailleurs, c'est la question sécuritaire. Cette question sécuritaire-là nous préoccupe tous. Or, jusque-là, nous ne voyons pas encore un début de solution par rapport à ça. Quand bien même il y a des discussions avec les groupes armés en sourdine, mais nous constatons que c'est encore le statu quo, puisque ces derniers temps, ici et là, il y a eu des cas d'assassinat, il y a eu des cas de séquestration. Ça nous inquiète. Bon, maintenant, la reprise du travail sur l'ensemble du pays est conditionnée par rapport à la question sécuritaire. Il y a des zones aujourd'hui pratiquement où les fonctionnaires, agents de l'État, il leur est difficile d'aller. À l'exception quelque peu des enseignants et des travailleurs de la santé, mais les autres secteurs, hein, c'est difficile.
Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique, joint à Bangui. Direction le Mali, formée il y a quelques jours, la nouvelle équipe gouvernementale est déjà à la tâche. Le premier conseil des ministres s'est tenu samedi, mais ce nouveau gouvernement du premier ministre Modibo Keïta est l'objet de critiques de la part des Maliens. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
9 entrants, 7 sortants, 8 femmes pour un total de 34 membres. La taille de la nouvelle équipe gouvernementale pose problème.
Je m'appelle Sori Diakité. Le gouvernement là est issu tout simplement des gens qui ont apporté à un moment donné leur soutien au président de la République. D'autres ont quitté tout dernièrement l'opposition pour aller se rallier derrière le pouvoir. C'est toujours le partage des gâteaux.
Les Maliens se réjouissent de l'entrée de certains responsables des groupes armés dans la nouvelle équipe gouvernementale. Mais Nina Walet Intalou, l'actuel ministre de l'Artisanat et du Tourisme, censé représenter la CEMA, dit être au gouvernement en son nom propre. Bien qu'ayant des avis divergents sur la nouvelle équipe gouvernementale, certains jeunes Maliens pensent que le problème n'est plus le gouvernement, encore moins les ministres.
Le pays étant un pays qui nous appartient tous, on va accorder à tout le monde le monopole du doute, quoi, en espérant qu'ils vont vraiment faire le travail qui va leur être consigné.
Sincèrement, moi, je ne crois pas que ces gens qui sont entrés tout récemment là peuvent apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'à chaque changement, les gens croient que ça va apporter quelque chose, mais rien. En fait, le problème, ce n'est pas ces gens-là. Et le problème, c'est la tête non qui est mauvaise, quoi. Il faut qu'on se le dise. Peut-être le premier ministre voit des trucs, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on se le dise.
En moins de 3 ans de gestion du pouvoir, le président Ibeka a eu 3 premiers ministres, 5 changements du gouvernement, dont 3 sous l'actuel premier ministre Modibo Keïta. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des groupes rebelles en Syrie ont lancé aujourd'hui une offensive majeure contre les secteurs pro-régime de la ville d'Alep après que l'armée a coupé leur unique voie de ravitaillement d'après l'AFP et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alep, deuxième ville de Syrie et un des enjeux majeurs de la guerre, est divisé depuis 2012 entre quartiers aux mains du régime à l'ouest et quartiers contrôlés par le groupe rebelle à l'est. L'Afghanistan a reçu un clair message de soutien à ses forces de sécurité jusqu'en 2020. C'est félicité aujourd'hui le président Ashraf Ghani de retour du sommet de l'OTAN à Varsovie. Jusqu'en 2020, l'OTAN va financer nos forces militaires à hauteur de 5 milliards de dollars par an, a dévoilé le chef de l'État lors d'une conférence de presse. L'OTAN a décidé en effet à Varsovie de maintenir près de 12 000 troupes en Afghanistan pour aider à lutter contre l'insurrection islamiste et soutenir les forces régulières. Le président Obama a lui-même annoncé que 8 400 soldats américains resteraient en poste jusqu'au début 2017 au lieu des 5 500 prévus. Du sport pour terminer avec du football, l'équipe du Portugal doit atterrir à Lisbonne à 11h15 GMT et être reçue par le président Marcelo Rebelo de Sousa qui va leur décerner le titre de commandeur de l'Ordre du Mérite. C'est le premier titre majeur du football portugais acquis en finale de l'Euro 2016 aux dépens de la France, battu 1-0 après prolongation dimanche soir au Stade de France sur un but d'Eder, joueur de Lille, après leur réception au palais présidentiel de Belém. Les joueurs de la Seleção feront un parcours en bus à travers les principales artères de la capitale portugaise et s'adresseront à leurs supporters dans une fan zone installée au nord de la ville. Jean-Roger Billon à ce micro, ce bulletin est terminé. Prochain rendez-vous de l'info, c'est dans 50 minutes en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.